Une des choses que Jésus aimait dire, il aimait dire que celui qui a deux oreilles pour entendre, entende. Et moi, j'aime bien cette parole qui est écrite dans les Écritures parce qu'elle nous parle. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, on écoute beaucoup de choses, on met nos petites émissions qu'on aime bien, on écoute des messages qu'on aime bien, que ce soit dans le domaine chrétien ou non. Et finalement, on entend, mais ce que voulait dire Jésus, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre en pratique. Et la parole de Dieu, ça se met en pratique. Et j'aime tous ces enseignements parce que c'est toujours imagé. Vous savez que Jésus parlait en parabole. Il parlait avec des images pour que ça nous interpelle, que ça parle à notre réalité, à notre quotidien. Mais surtout, ce qui était important pour lui, c'est que ce qu'il nous donnait, il fallait le vivre, le mettre en pratique. Et on va encore s'arrêter sur un petit passage, un petit fragment de ce que Jésus a dit. On va essayer d'étudier ça, de se l'approprier, de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter et comment je vais pouvoir installer ça et vivre ça concrètement dans ma vie. Donc vous connaissez tous le sermon sur la montagne de Jésus, un des plus beaux passages, un passage merveilleux où Jésus nous parle, il enseigne et puis c'est un temps vraiment important. Et c'est vraiment un texte puissant, vraiment puissant de la parole de Dieu qui est connu. On le lit et puis on lit ça souvent, ça nous fait du bien, c'est dans Matthieu, entre le chapitre 5 et le chapitre 7. Et nous, on va juste prendre quelques versets, vous allez voir, et vous allez voir que les gens s'assemblaient autour de Jésus. Jésus était cette personne qui était différente, qui parlait différemment, qui interrogeait les gens sur des réalités qu'ils vivaient et qui donnait des vérités, sans jamais condamner les gens, mais tout simplement en interpellant sur, voilà, il se passe ça, et qu'en est-il de ta vie, et pourquoi, et il posait des questions. Vous avez toutes sortes de personnes qui suivaient Jésus. Imaginez-vous sur cette colline, vous êtes là, et il y a la foule devant Jésus. Il y a des personnes blessées, il y a des personnes fatiguées, il y a des personnes de tous horizons, mais qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient besoin d'entendre ce qu'il disait. Des personnes qui cherchaient un sens aussi à leur vie. Ils se posaient la question, mais finalement, à quoi bon être sur cette terre ? À l'époque, la vie était difficile du temps de Jésus. On pourrait dire que de notre temps aussi, elle est difficile. Mais nous, notre vie est difficile, mais elle est baignée dans le confort. Je peux vous le dire, on est très confortable. Souvent, on entend, on parle entre nous et on va dire « Ah, c'était difficile. » Ouais, c'était difficile. Donc vous voyez, de tout temps, il y a eu des difficultés. De tout temps, il y a eu des combats, il y a eu des oppressions, il y a eu des choses qui contraignaient le peuple. Et Jésus arrive là et il parle différemment. Les gens sont interpellés par son message. Imaginez cette foule, qui entend, qui écoute, qui est là. Et le sermon sur la montagne, c'est premièrement un appel à la réalité intérieure de l'homme, avant ce qui est extérieur. Jésus va parler vraiment du dedans de l'homme, de ce qui se passe au fond de nous-mêmes. Et ça interpelle, parce que lorsqu'il nous parle, les gens entendent ses paroles et disent « Ouais, c'est vrai que il y a un monde au-dedans de moi. Il n'y a pas que ma voiture, mes études, mes enfants, tout ce que les gens voient, vous voyez la vitrine, il y a tout ce qui est au milieu, au fin fond de mes entrailles. Et Dieu voit toute chose. Il connaît la moindre chose qu'il y a sur ton cœur. Rien n'est caché à Dieu. Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu considère ça, que tu ne peux rien faire qui ne soit caché devant Dieu. La moindre de tes pensées est connue de Dieu. La moindre de tes motivations, de tes intentions est connue de Dieu. Et lorsque Jésus parlait, il y a un moment, dans ce discours-là, il va parler, il va interpeller sur qu'est-ce qu'il y a au fond de toi ? Qu'est-ce qui te domine ? Qu'est-ce qui te dirige ? Qu'est-ce qui te contrôle ? Et c'est ce qui nous interpelle encore aujourd'hui, dans une société qui, finalement, on entend toutes sortes de choses, tout va vite. On peut être balayé par une information parce qu'on a allumé notre téléphone le matin et puis on voit quelque chose et d'un coup, notre humeur change. Parce que ça t'interpelle, parce que ça, quelque chose peut te outrer. Ou alors, tu peux allumer... Moi, j'aime bien le sport, tu vois. Et puis, quand j'ouvre Eurosport, ma femme, elle me dit « Eurosport, c'est ta deuxième femme ». Je dis « Écoute, j'ai pas le temps de regarder les matchs. J'aime beaucoup le tennis, vous voyez, et puis le tennis, c'est long, c'est ça le problème. J'ai pratiqué beaucoup le tennis, et vous voyez, là, il y avait les deux cousins là, qui s'affrontaient. J'avais envie de voir le match, sauf que c'était à Shanghai dans la nuit, je ne vais pas me réveiller pour regarder le match. Donc, je vais aller sur Eurosport et je vais regarder. Et quand je vois qu'un de ceux que j'aime a gagné, ça me fait quelque chose. Je ne vais pas dire que ça ramène la joie, mais voyez, je suis perméable. Cette information me fait du bien. Et vous avez des informations qui vous font du bien, tout comme des informations qui peuvent vous perturber. Nous sommes des êtres humains et nous avons été faits de manière perméable. Il y a des choses qui rentrent en nous, qui pénètrent, qui peuvent pénétrer jusqu'au plus profond de notre cœur. Et il y a aussi des choses qui sortent de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et tout ça va concevoir ton monde intérieur, la personne que tu es intérieurement, que parfois même tu ne montres pas à tout le monde. Moi, je dis toujours, la personne qui me connaît le plus, c'est ma femme. Elle voit chacune de mes réactions. J'ai apprécié partir avec Yannick, je l'ai regardé, il se marie. J'ai apprécié partir avec Yannick en voyage parce que je l'ai découvert sur certains traits. Et j'ai apprécié sa façon de s'ébahir devant les belles choses comme devant les choses qui le stressent. Et quand il lui arrive quelque chose de soudain, il vous lâche un « punaise !» Mais j'arrive même pas à le reproduire. Et depuis qu'on est partis ensemble, j'essaye de le reproduire. Donc « punaise » est rentré maintenant dans mon vocabulaire. Parce que ça m'a interpellé. Il est devant une cascade et d'un coup, il a « oh, mais punaise !» Et puis on est dans la voiture, une blatte lui monte sur la jambe et là il fait « mais punaise !» Elle se dit « à l'église, je n'avais pas vu comme ça ?» Vous voyez ce que je dis? Et j'ai dit bah, « ça doit être sympa avec ta femme quand même, ce que vous vivez ensemble. » Donc vous voyez, il y a des choses que certaines personnes verront de vous, il y a des choses qu'elles ne verront pas tout simplement parce que vous n'êtes pas assez intime, pas assez proche. Et il y a aussi des choses que vous allez essayer de cacher bah, ou alors de planquer dans une armoire parce que c'est pas vraiment valorisant pour qui vous êtes et la personne que vous voulez montrer aux autres. Vous voyez, quelqu'un de sérieux, de peu importe, quand il y a quelque chose un peu à vous cacher. Vous voyez, on est tous comme ça. Nous sommes perméables, des choses nous influencent de tous bords et Jésus nous parle de ce monde intérieur. Donc je vous l'ai dit, on a la surinformation, il y a 1000 voix qui nous parlent, 1000 opinions sur un sujet aujourd'hui. Et puis parfois ça tourne dans notre tête, qu'est-ce que je dois penser sur ce sujet-là? Et puis qu'est-ce que je dois penser sur celui-ci? Et vous avez toujours ceux qui sont au top de l'information. Et quand vous ouvrez Facebook, vous avez tous les posts, boum, 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 boum. Et puis en tant que chrétien, nous devons penser ça, 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 ça. Toi, tu n'es même pas encore au fait de la situation, que tu es déjà inondé. Vous voyez? C'est la réalité de notre monde et je pense qu'un des gros défis qu'on a, c'est cette vitesse d'information qui parfois nous empêche de vraiment nous recueillir dans la présence de Dieu. Et ça nous a fait du bien, le message de Vincent, de prendre du temps et de se dire, voilà, sur quoi est fondée ma foi, sur la grâce de Dieu. Et comme on l'a dit, c'est important de réécouter, ça nous parle. Alors, c'est un appel à la réalité, mais c'est une invitation à la lumière. À la lumière, à la sincérité et à la vraie liberté. Jésus a interpellé le peuple, notamment les Juifs de l'époque, pour dire où est réellement votre sincérité, où est réellement votre cœur, pourquoi toutes sortes de pratiques extérieures, mais moi je vois au fond de vous, et ces choses-là ne reflètent pas réellement qui vous êtes. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que tout ce que nous faisons reflète qui nous sommes, et surtout qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. C'est bien de savoir qui je suis, Alexis, moi je peux vous faire... Vincent a fait le profil de grâce, mais moi, je peux vous faire le profil de mon caractère, de ma façon d'être, de ma façon de penser. Et je t'assure que je ne suis pas bien différent de toi et que voilà, tu ne seras pas bien intéressé par qui je suis. Par contre, le profil de qui je suis en Christ, de ce qui est en train d'être travaillé par le Seigneur en moi, de la personne que je suis en train de devenir, là où le Seigneur m'appelle, ça devient intéressant. Parce que c'est mon identité en Christ. Et est-ce que tout ce que tu fais... Tout ce que tu dis, tous les actes que tu portes reflètent l'identité que tu as en Jésus-Christ. Et Jésus avait cette capacité à mettre le doigt toujours dans une discussion, dans une rencontre. Jésus est cet homme qui aimait les rencontres. Et lorsqu'il rencontrait quelqu'un, la parole était toujours à propos. Lisez les histoires de rencontres de Jésus. Vous allez voir qu'aucune des rencontres qu'il n'a fait n'a pas transformé une vie. Et il transforme la nôtre. La troisième chose, c'est le discours sur... la montagne, c'est une parole qui nous grandit, qui parfois nous permet de grandir, mais aussi qui dérange. Mais aussi une parole qui guérit lorsqu'on la reçoit profondément. Jésus ne donnait pas vraiment des leçons morales, c'était pas ça le but. Mais c'était vraiment un discours sur une invitation à bâtir différemment notre vie. J'avais pas plus tard qu'hier avec Chanel, j'avais une discussion, vous savez, sur les activités sportives de nos enfants. Et j'ai dit, en fait, on ne s'est jamais posé la question pourquoi c'était important pour nous qu'ils fassent du sport. Et pourtant, moi, je suis un passionné de sport. J'aime le sport. J'aime pousser mes limites. J'aime savoir jusqu'où je peux aller. Je me souviens, je suis allé avec Alexis à l'escalade. Puis je dis, Alexis, tu vois cette voie-là, elle est pour toi. Essaye. Il dit, mais j'ai jamais essayé. Je dis, pourquoi ? Bah, je pense que moi, je ne suis pas capable. Moi, je peux faire telle voie, telle voie. Je dis, vas-y, monte. Il est monté, il a réussi, il était content. Moi, j'aime savoir jusqu'où je peux aller. Et quand j'ai compris jusqu'où je peux aller, je décide, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas ? Parce que finalement, j'aime bien me connaître, mais il y a des choses, ça ne m'intéresse pas de consacrer trop de temps. Vous voyez, mais je ne me suis jamais posé vraiment la question, pourquoi on veut qu'ils fassent du sport? Et finalement, c'est parce que dans notre société, c'est important d'aller à l'école, faire un peu de sport, et puis que les enfants se développent, et vous allez sortir tous les points positifs, sauf que tous les points négatifs pour les parents, c'est qu'on passe le temps dans la bagnole, on se réveille le matin à 5h, on cherche le Seigneur, on part au travail, on rentre le soir, et puis on fait le tour de la métropole, et on s'assoit dans le canapé, il est 22h30, et on se regarde, on dit, je suis fatigué. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, il y a des choses qui pénètrent dans notre vie, qui nous attirent dans un courant, où on rentre parce que tout le monde fait comme ça, parce que c'est important de faire comme ça, et finalement, ça nous pompe beaucoup d'autres aspects de notre vie qui sont pourtant bien plus essentiels pour nous. Vous arrivez au collège, vous inscrivez votre enfant à l'AS de sport, et puis vous tombez sur un prof qui est à fond, et qui vous fait tout un programme, et on va faire ceci, et je rajoute cela, et moi je regarde, mais je peux pas suivre! C'est pas possible! Je peux pas! J'en ai quatre! Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'impose à moi parce que je veux faire plaisir. Parce que je veux pas priver mon enfant d'eux. Mais en même temps, est-ce que c'est plus important pour moi qu'il fasse du sport pendant 10 ans ou que ma fille soit capable de rentrer dans sa chambre et chercher son Dieu et prier? Et là, je me suis dit, non, il y a des choses à rééquilibrer. Et nous, on a passé notre temps, depuis qu'on est mariés, à rééquilibrer nos engagements, rééquilibrer notre vie pour remettre les priorités qui sont pour nous servir le Seigneur. Et si notre famille est appelée à servir le Seigneur, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. On ne pourra pas plaire à tous les profs, à tous les programmes qu'on nous propose, ce ne sera pas possible. Et si un prof me dit, mais vous vous rendez compte quand même, votre enfant est super, il est génial. Oui, mais je n'ai pas la conviction que ce sera un professionnel dans tel domaine et que c'est là où je dois le pousser. Vous comprenez, je vous prends un exemple de ma vie personnelle parce que c'est des réalités. Donc on est tout le temps en train d'arbitrer, non seulement entre ce qui nous touche intérieurement, mais entre ce qu'on nous propose, entre ce qu'on nous impose quelque part, et finalement qui va prendre du temps, qui va prendre notre énergie, qui ne sera pas destinée à ce qui pour nous est essentiel, c'est-à-dire suivre Dieu et s'atteler à lui ressembler. Parce que ça demande du temps. Prendre le profil de Jésus de grâce, prendre le profil de sa façon d'être, de sa façon de vivre, et nous mettre nous en face, il y a du boulot. Et tu ne peux pas arriver comme ça et dire, c'est bon Jésus, transforme-moi, je suis une nouvelle personne. Oui, je suis une nouvelle créature, mais je suis appelé à travailler tous les aspects de ma vie. Alors Jésus, quand il parlait, c'est ce qu'il disait. Il était capable de s'arrêter, prendre un café avec toi et dire, écoute, j'entends ce que tu dis, mais quand je vois ta vie, elle n'est pas orientée sur ce que tu dis. Tu passes à côté de l'essentiel. Là, tu te trompes. Et ça nous fait du bien de se mettre en face de Christ parce que ça remet les choses vraiment à leur place. Alors on va lire le passage. Matthieu 6, versets 19 à 24. Comme je vous l'ai dit, on ne prendra que quelques versets. Si vous voulez lire les chapitres entiers, c'est toujours intéressant. Mais nous, on s'arrêtera sur ces versets-là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, à partir de là, ça nous intéresse. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset qu'on aime tous, hein, nous les vieux chrétiens, on le connaît par cœur celui-là. On le connaît. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On enchaîne. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Donc les choses matérielles, l'argent ici, aujourd'hui, ce sera pour nous les choses de ce monde. Ceci sont les paroles de Jésus. Ce n'est pas les miennes, c'est sa parole, c'est son discours, il nous interpelle. Et on va se poser la question, pour nous aujourd'hui dans notre société, comment, si Jésus venait, et s'il était à ma place ce matin, lorsqu'il parlerait comme ça, de quelle manière c'est censé nous interpeller? Parce qu'on a tous des vies très chargées, on est tous bien diplômés, on est tous occupés, et pourtant le dimanche matin, on donne tout notre cœur à Jésus. Et lundi, on retourne. Et si Jésus venait dans chacune de nos vies, il dirait, on a les pieds bien sur terre. On dit qu'on a la tête bien dans le ciel, mais souvent on a la tête qui suit les pieds. C'est juste ou c'est pas juste? Moi, quand j'ai la tête dans le guidon, comme on dit, j'ai la tête dans le guidon. Hein. Je suis comme toi. Donc la question, c'est comment assumer nos responsabilités sur cette terre, nos engagements, être quelqu'un qui a réellement les pieds sur terre, mais avec un cœur qui est attaché au ciel, aux vérités célestes. Parce que ce sermon sur la montagne, c'est tout ce qui parle des réalités du royaume de Dieu et en contraste avec l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde est bien là depuis toujours et influence depuis toujours ceux qui veulent suivre Dieu. Alors comment ça nous influence? Donc le contexte du passage, c'est ce que je vous dis. Jésus enseigne sur les valeurs du royaume de Dieu en opposition à l'esprit du monde. Alors on va dire que il va inviter ses disciples à examiner réellement leur cœur et leur motivation. Leur motivation profonde, celle que personne ne voit. Même ta femme ne peut pas voir ces motivations-là. Et ce passage va s'inscrire dans une réflexion. Et là, Jésus parle à ta tête. Il ne parle pas à l'esprit qui t'anime. Il parle à ta tête. Quel est le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui? Que tu ne serais pas prêt à vendre parce que c'est ton tout. Que tu ne serais pas prêt à troquer. Ensuite, ça s'interroge sur la vision, l'œil. Il nous parle de l'œil. Et le maître, l'argent ou Dieu, les choses matérielles ou Dieu. Alors, l'œil bon, on parle bien ici dans ce passage de l'œil bon ou l'œil mauvais. Alors, dans la culture juive, l'œil représente la perception qu'on a. Ah, merci Esther. C'est vraiment bien ça, hein, tu me suis et tout. Elle a vu que c'était vide. Donc l'œil, c'est la perception. La perception qu'on a finalement de la vie, la perception qu'on a du monde. Et il suffit de parler un petit peu les uns avec les autres, et vous allez voir qu'on va tous avoir une perception à un temps T du monde, de notre société, de ce qu'on peut même vivre dans l'Église, en fonction de nos valeurs, de ce qui est attaché à notre cœur, mais en fonction aussi de ce qui nous a alimenté cette semaine. Si tu as été stressé cette semaine par la société, tu risques d'avoir une perception du monde qui est « j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol ». Et j'en peux plus de ce monde, de cette vie. Vous voyez, donc on fluctue dans notre perception du monde, de la société, parce que la société fluctue et nous impose toujours des choses nouvelles. Donc l'œil bon est synonyme de générosité, est synonyme d'intégrité, de clarté dans la manière d'envisager ma vie. Est-ce que la manière dont j'envisage ma vie est claire? Est-ce que les choses sont claires? Est-ce que tu as une vision claire de ce que tu ne troqueras jamais pour Dieu, contre Dieu, enfin, vis-à-vis de tes engagements ou pas? Est-ce que tu sais où tu vas sans avoir les détails, mais tu sais que pour toi, ta vie, c'est vraiment la vie avec Dieu, tu vois? Que rien d'autre ne pourra te détourner de ces choses-là. Ensuite, l'œil mauvais est liée à l'envie, la cupidité, la jalousie. Il suffit d'aller voir les proverbes de Deutéronome, on ne va pas lire ce matin, mais l'envie, la cupidité, la jalousie. Donc tu vas être influencé par toutes sortes de choses qui sont autour de toi, et parce que les autres ont, et ben c'est important que tu aies comme eux, et pour avoir comme eux, il faut que tu montes socialement, il faut que tu fasses toutes sortes de choses pour juste posséder quelque chose. Ça va orienter ta vie, je vous donne un exemple bateau, mais ça oriente ta vie. Cette envie-là va te mettre en action vers des choses matérielles, terrestres, que tu peux faire, mais qui finalement t'éloignent de la pensée de Dieu, de ton identité. La cupidité, c'est de toujours chercher à en avoir plus dans les poches. Et puis finalement, on devient un peu sournois dans certaines choses. Tu vois, on retient là pour garder là. On a du mal à bénir un frère parce que tu comprends, moi j'ai un plan de vie. Il faut que je construise ma retraite. Donc la libéralité, ça va 5 minutes. Comprenez ? Et on évacue des principes bibliques comme ça tout doucement parce qu'on a décidé que ça allait fonctionner comme ça. La jalousie. Eh bien, ma sœur, elle a eu une promotion. Comment c'est possible ? Je ne la vois pas en réunion de prière. Mais elle est promue. Et moi qui suis là, fervent, je n'ai pas la promotion. Animosité les uns envers les autres. Tout ça, c'est des portes d'accès, ok ? Ensuite, il va nous parler dans ce passage de la lumière et des ténèbres. Quelque chose de très simple pour nous, chrétiens, on chante ce matin quand je suis arrivé, et puis première phrase dans la louange, c'était « le roi de mon cœur ». Puis finalement, c'est le sujet de ma prédication. Et ensuite, on a chanté dans « Il transforme l'eau en vin », on parle de la lumière et des ténèbres. Effectivement, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc la lumière, c'est la révélation. C'est la présence divine. La présence divine dans ta vie. C'est la vérité qui éclaire ton âme. Ton âme peut être embuée, comme je vous l'ai dit, par toutes sortes d'informations, toutes sortes de pressions, toutes sortes de situations. Mais ça éclaire ton âme. La lumière de Dieu arrive et tu vois plus clair sur les situations qui t'environnent. Sur ta vie de couple, sur ta vie de famille, sur les décisions que tu dois prendre. Dans ton travail, dans tes relations, avec tes amis, avec tes collègues. Ça éclaire ton âme. En fait, mon attitude doit être celle-ci, Seigneur. Parce que toi, tu vis en moi. Parce que si c'était moi, je lui mettrais une claque à celui-là. Il m'énerve. Mais parce que tu vis en moi, je veux avoir l'attitude que toi, tu aurais. C'est difficile, Seigneur, mais change mon cœur. Ça, c'est l'attitude du chrétien. Difficile parfois, hein. C'est pas facile, hein. Et puis ensuite, on a les ténèbres. C'est quoi les ténèbres ? Ténèbres, c'est loin de la lumière. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Les ténèbres représentent l'ignorance spirituelle. On ne comprend pas qu'il y a un monde spirituel, que ce monde spirituel influence le monde intérieur de ma vie, et que finalement, lorsque ça influence mon monde intérieur, eh bien, je prends une décision gauche ou droite, et puis il n'y a que deux choix, la mort ou la vie. Et quand on ignore ça, et quand le monde ignore ça, la parole de Dieu est claire. Les choses bonnes seront appelées mauvaises, les choses mauvaises seront appelées bonnes. Et on ne sait plus où on va, et puis voilà. C'est là où on a besoin d'amener les gens à sortir de cette ignorance spirituelle pour prendre une autre direction, prendre une décision qui leur appartient, mais de pouvoir présenter quelque chose d'autre. Vous êtes le Jésus qui présente un autre chemin. Et qu'on se dit, mais je vais aller écouter ce qu'il dit, lui, parce qu'il vit différemment, il pense différemment, et ça m'intéresse, parce que ce que je vois là, ça ne me rend pas bien. Et finalement, je n'avance pas. C'est la confusion, c'est l'égarement moral. Alors Jésus va proposer un diagnostic spirituel clair. Et il nous dit, ce que tu regardes, ce que tes yeux voient, la façon dont tu perçois le monde, eh bien... Ce qui attire ton attention va influencer profondément ton être tout entier. Alors fais attention à ce que tu regardes. Fais attention sur quoi ton attention est portée. Si ton attention n'est portée que sur ta réussite au niveau de ta carrière, eh bien il y aura des fruits qui en découleront, oui. Mais tu peut-être que tu prendras une direction qui n'est pas totalement celle que Dieu veut pour vous. Nous sommes pour la réussite, nous sommes pour les victoires, même dans le milieu professionnel, mais nous ne voulons pas que ça soit notre Dieu. C'est juste ? Donc on a un équilibre à trouver. Ensuite, le diagnostic, c'est si notre vision intérieure est pervertie, ne serait-ce qu'un petit peu, alors tout mon être va être affecté. Ça va commencer à polluer tout mon état d'âme, mon corps. Tu vas commencer peut-être à être stressé. Le stress va faire que tu ne vas plus dormir. Tu ne vas plus dormir, tu vas être exécrable, tu vas être facilement en colère. Et puis tu vas réagir et tu vas t'éloigner de ton identité en Christ. C'est fou. Ça influence tout. Tes pensées, c'est un tsunami. Vous avez déjà été comme ça, vous perdez pied là. Ah, c'est le stress. Et il va aller plus loin, Jésus, il va dire que finalement, ça c'est vraiment le point clé, c'est quand on pense que nos valeurs, nos façons de penser sont la lumière, c'est-à-dire que notre propre morale est la lumière qui va nous conduire dans cette vie, eh bien on se trompe méchamment. Parce qu'il va dire, si tu crois que cette lumière est, que ces ténèbres sont lumière, alors là, t'es vraiment perdu. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien tes ténèbres seront grandes ? Si ta morale que tu considères comme être lumière dans ta vie, ce que tu choisis, ce qui te guide tous les jours, et qui pourtant est ténèbre, que tes ténèbres sont grandes. Là, c'est la noirceur la plus totale. Parce que tu es convaincu de ce que tu fais. Tu ne reviendras pas en arrière. Tu sais qui tu es, puis tu marches, et voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. Ensuite, il va nous parler des maîtres que nous avons dans notre vie. Et j'aimerais prendre le temps sur ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et on a plusieurs maîtres dans notre vie. On a ceux que j'ai appelés les maîtres tyrans. C'est les tyrans de nos cœurs. C'est ceux contre lesquels on a du mal à combattre. C'est vraiment ce qui est attaché à notre chair, tu vois. Et profondément attaché au caractère. Et vous savez, un maître a des exigences et a des attentes envers toi. Et lorsque dans ta vie, il y a un tyran, les exigences sont lourdes à porter. Alors les tyrans, ils sont simples, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais les tyrans, ça va être l'argent, on l'a dit, conduit par l'argent. La peur, toutes sortes de peurs et de craintes. C'est ce qui nous domine, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous aide à prendre nos décisions. Et puis on voit, il y a une situation, on a peur et on réagit en fonction de ça. Et la peur cause un stress, etc. etc. On est des gens voilà, qui vivons constamment dans cette crainte. Ensuite, on a toutes sortes d'addictions. Les drogues, l'alcool, on en a parlé, tout ce qui est impudicité, la sexualité. Ça dirige notre vie, ça dirige nos pensées. L'adultère. Toutes ces choses-là, la colère qui dirige mon cœur, c'est un tyran. La moindre chose me met en côte l'air, une queue de poisson sur la route et je démarre au quart de tour. Ma femme, elle ne me dit pas le bonjour le matin, elle ne me fait pas un sourire, je démarre au quart de tour. Lui, il ne réagit pas comme j'aurais voulu qu'il réagisse, je démarre au quart de tour. Chaque fois, ta manière de démarrer est alimentée par ta colère. C'est un tyran dans ta vie, parce que tu n'es pas qui tu devrais être, tu es dominé par la colère. Et avec ces exigences, là, tu dois réagir. Tu ne peux pas te laisser faire. C'est pas possible, il faut lui dire. Ça vous est arrivé, il y a des colériques ici ? Il n'y a pas de colériques chez les chrétiens. Ouais, ils ont déjà géré ça à la croix. Alléluia, par la grâce. Alléluia. La rancune, Vincent, on en parlait. On ne va pas en reparler. La jalousie, on en a parlé. Maintenant, on va parler de ceux, qui sont, c'est pas des tyrans. Eux, c'est des maîtres, c'est des rois de nos cœurs, qui sont tolérés, qui sont acceptés et qui sont parfois revendiqués. Parce que ceux-là, on les aime bien. Parce que ceux-ci nous définissent. Ceux-ci nous font sentir qu'on sait qui on est. Et souvent, eux, on les appelle les rivaux de Dieu. Et dans l'Église, ce sont pour nous les rivaux de Dieu. Ça va s'inscrire plutôt dans notre caractère. Le besoin de contrôle.
Ah.
Le besoin de contrôle. C'est quelque chose de... Ça, c'est quelque chose de puissant. Je ne suis bien que si je contrôle. J'ai jamais lu ça quelque part dans la parole de Dieu. Ma joie, ma paix dépend de mon organisation. De ce que je vais produire cette semaine. Du fait que ça va rouler, tous les engrenages sont bien huilés. Mais ce style de personne vient enlever un engrenage. Tu vas voir s'il n'y a pas le caractère qui va sortir. S'il n'y a pas des réactions bizarres qui vont sortir. Alors qui contrôle ? C'est Dieu ? Ou c'est le rival ? Souvent c'est le rival. Parce qu'on se construit une façon d'être pour se protéger de certaines situations. Je n'ai pas aimé cette situation. Comme je n'ai pas aimé cette situation, je vais tout faire pour ne plus revivre cette situation. C'est bien, ok, on peut raisonner, on peut faire les choses comme ça. Mais le problème, c'est que quand je me définis comme étant ça, le contrôle me définit. Si le contrôle me définit, ce n'est plus Christ qui le définit. Et donc, ta façon de vivre, ce sera toujours dans le contrôle. Et quand il y aura une situation un peu compliquée, difficile à gérer, la première personne vers qui tu vas aller, ce n'est pas Christ, c'est vers comment je peux arranger ça pour que ça fonctionne. Et tu vas t'exciter comme ça. Dans le travail, c'est des personnes efficientes, efficaces, ça fonctionne bien. Mais dans d'autres domaines, c'est assez pénible. Parce qu'on ne maîtrise pas. Et qui t'a dit que tu pourrais maîtriser chaque seconde, chaque minute de ta vie ? Personne. À l'opposé, on a les hyperlaxistes. Alors, on verra demain. Puis quelqu'un fera pour moi. Aïe, les deux-là, ils s'aiment pas. Hein. En règle générale, tu les mets dans la même pièce, ça finit en meurtre. Vous voyez, parce que en fait, je crois que ce caractère-là me définit profondément. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça devient un rival de Dieu. Parce que parfois, Dieu te demande de te bouger, d'organiser les choses et de prendre des décisions. Et si tu attends toujours que de... Où le vent me conduira demain ? On fonctionne à l'inspiration, j'ai entendu dans la salle. J'étais pas inspiré aujourd'hui. Tu dois aller bosser, enfin. T'es pas inspiré ? Parce que moi, il y a plus de jours où je suis pas inspiré que quand je suis inspiré. Hein. Je serai très peu productif. Et dans tout ça, on a besoin, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on a besoin de prendre un détachement et de se dire, ok, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Mais est-ce que c'est ce fonctionnement qui est mon maître ? Ou est-ce que c'est Christ qui est mon maître ? Parce que c'est hyper sournois. Parce que du coup, chaque situation que tu vas vivre dans ta vie, est-ce que tu laisses l'opportunité à Christ de changer ton cœur et d'être semblable à lui, ou alors tu es dans ton fonctionnement ? C'est sournois. Le perfectionnisme, on ne va pas en parler, ce serait long. L'approbation, ça c'est quelque chose d'important. J'ai besoin d'être qu'on approuve mes choix, qu'on approuve la personne que je suis et qu'on me dise que c'est bien. Et que finalement... le regard des autres est plus important pour moi que réellement qui je suis. Et en fait, je suis au travers du regard des autres. Il y a des personnes comme ça. Hein. Donc, il faut toujours que l'image que je renvoie soit bonne aux yeux des gens. Et du coup, ça fait des caméléons. Je suis comme ça dans ma famille, mais je suis comme ça au travail, et puis je suis comme ceci là-bas. Et on n'a pas vraiment une identité qui est définie. Et bien ça peut être aussi l'approbation, avoir un besoin d'approbation, un besoin d'une reconnaissance de l'extérieur, ça peut être un rival de Christ. Parce que pendant que tu fais ça, Christ il te regarde, bon écoute, quand est-ce que je peux placer un mot et quand est-ce que réellement tu vas me suivre et tu vas écouter ma voix ? Parce que là tes oreilles n'entendent pas. Ensuite on a l'activisme, alors lui aussi c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez fort. C'est plus j'en fais, plus je suis occupé, plus je suis dans mes actions, plus je me sens capable. Tu vois, j'ai actionné des choses dans ma vie et ça me rend bien. L'activisme, ça se retrouve aussi dans l'Église. Il faut servir. Si je ne sers pas, je m'ennuie. Moi, des fois, j'entends des pasteurs, j'ai parlé à un pasteur récemment, je dis, bon, écoute, ce serait bien que tu te prennes une semaine là, quelque part. Ah ben non, je ne vais pas prêcher. Ah bon, tu ne vas pas prêcher? Moi, je ne prêche pas, je vais très bien. Hein. Ça me va. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas de problème avec la prédication. Mais il y en a, il faut qu'ils prêchent. Tu vois. On ne fermera pas l'église. C'est mon service. L'activisme, tu vois, je me sens utile, en fait. C'est se sentir utile. Se sentir utile, c'est des gens qui imposent leur service, mais qui ne rendent pas service. Ah, ils t'imposent leur service, ils sont là. Ah bah t'es là, bah fais, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais en fait, ils ne te rendent pas service. Rendre service, c'est il y a une faille quelque part, je peux t'aider. C'est pas je m'impose. Quelqu'un qui impose son service, c'est pas un service rendu. Ça marche? Donc ça peut être également très sournois. Si on a, il n'y a plus la place à Dieu dans tout ça. Les compétences. Construire sur mes compétences. Mais moi, je sais faire. Je suis capable. J'ai été à l'école et j'ai appris à faire et je vais construire ma vie spirituelle sur mes compétences, sur mes propres capacités, les moyens que j'ai entre mes mains. Je maîtrise ça. C'est un mélange avec la maîtrise, vous voyez. C'est aussi sournois. Parce que comment tu vas faire dans les situations où tu n'auras plus rien? Mais tu vas être complètement hors contrôle, tu ne vas pas être bien. Et tu n'auras pas appris à compter sur la grâce de Dieu, sur les moyens que lui te donne, sur ta capacité de t'adapter, ta capacité de te remettre en question, ta capacité de revoir ta vie complètement, et tu vas passer par une dépression. Et beaucoup, même de chrétiens, passent par des dépressions parce qu'on ne sait plus. Alors voilà, j'ai essayé de faire un gros panorama de ces choses-là. Il y en a certainement encore d'autres. Mais ces maîtres-là, souviens-toi, pourquoi ils sont sournois? Parce qu'on les aime. C'est qui je suis. C'est ce que je suis, c'est ce qui me définit. Tu les apprécies. Moi, je suis carré. Je suis carré. Et je travaille avec les carrés. Parce que dans le monde, si on était tous comme ceux-là, là-bas, je ne sais pas où ça irait. Hein? Ça vous parle, ça? Et en fait, c'est un mensonge. Parce qu'effectivement, tu as tout ce que Dieu t'a donné, tes qualités, mais ça ne doit pas être ton maître, ça ne doit pas être ton Dieu à aucun moment. Alors Matthieu 6, verset 23, nous dit « Si la lumière en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes ?» Et j'aimerais nous interpeller sur ça. Si tu crois profondément que ces attitudes-là sont les bonnes, tu te trompes. Parce que la réalité, c'est que c'est si tu crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus important, la réalité, c'est que en fait, tu fais de Christ le second. Et si tu fais le second, ce n'est plus la vraie lumière. Et ce qu'il y a en toi de mauvais va toujours être attiré par ce qu'il y a de mauvais. Vous savez, Satan, il y a une façon de fonctionner. Il y a le monde spirituel. Tout ce qui en toi est encore ténèbre va toujours être attiré par ce monde des ténèbres. Et quand tu te complais et que tu dis « mais ça va, ça passe », en réalité, tu vas être obscurci complètement. Tu vas être complètement mis dans le noir. Mais toi, tu croiras encore être dans la lumière. Et quand tu crois encore être dans la lumière, c'est là où en fait, tu es complètement perdu. Parce qu'il n'y a pas Christ. Je ne sais pas si j'arrive à être clair sur ce point-là, mais le peu de ténèbres qui est en toi va toujours être attiré. C'est une porte pour l'ennemi. Et c'est pour ça que Jésus il nous fait comprendre clairement. Tu as besoin de comprendre quelle est la vérité, quelle est la lumière et ce qu'est la lumière pour toi. Pour voir clair dans ton propre cœur et pour voir clair dans ce monde. Parce que tu vas devoir fonctionner dans ce monde. Et s'il y a un reste de ténèbres en ton cœur, sache qu'un jour ou l'autre, tu vas être happé. Tu vas être envahi. Si tu chéris le fait d'être comme ceci ou comme cela et que c'est important pour toi, sache que dans certaines situations, les ténèbres vont t'engloutir. Parce que tu seras plus capable de dire, effectivement, chez moi, c'est un trait de caractère qui peut être bon, mais dans certains domaines, c'est pas Dieu. Et auquel cas, je veux pas suivre ça. Tu me suis ou tu me suis pas ce matin? Parce que j'ai l'impression que je t'endors. Alors, 1 Corinthiens 3, verset 11 nous dit... Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Dans ton cœur, si Jésus-Christ, le fondement de Christ a été posé, il faut que ce fondement-là soit la base. Est-ce que Jésus-Christ, ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que Christ est vraiment le maître de ton cœur. Aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que tu as vécu cette semaine, avec tout ce que tu penses, est-ce que Christ est le maître? Peut-être tu as été perturbé par des situations, peut-être on t'a dit des choses, peut-être est-ce que Christ est ton maître? Ou est-ce que tu te retranches derrière les petits maîtres à gauche, à droite, les petits rivaux, pour essayer de trouver une solution? Il faut savoir qu'on peut choisir de nourrir l'un ou l'autre. Et Jésus nous dit, vous n'allez pas pouvoir servir deux maîtres en même temps. Tu auras une décision à prendre. Soit tu prends la décision en fonction de tes valeurs, ta morale et même ta morale chrétienne. Soit tu prends ta décision et tu bouges en fonction de qui je suis et de comment moi j'agirai dans cette situation. Et c'est là où c'est dur. Parce qu'on doit abandonner certains rivaux pour dire, Jésus, me voici. Change mon cœur. C'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie chrétienne. Jésus est la clarté parfaite. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il donne, il relève, il libère, mais il ne te demande pas d'être parfait parce qu'il sait que tu seras imparfait. Imagine Dieu dans sa rigidité, Dieu qui dit, moi je suis carré. J'ai créé la ciel et la terre, ça fonctionne comme ça, telle constante, tel machin, et toi là, tu ne fonctionnes pas bien. Je ne te supporte pas. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, parce que tu es imparfait. Parce que je t'ai créé pour de bonnes œuvres et qu'il y a un malin là qui s'est amusé à vous détourner du plan que j'avais prévu, j'envoie mon fils. Et vous allez pouvoir vivre cette nouvelle vie à nouveau par la foi en Jésus-Christ. Dans votre imperfection, je vais vous aider. Il ne nous a pas condamnés. Il nous a donné une solution pour pouvoir continuer à avancer dans cette lumière. Il est la lumière. Il va nous éclairer profondément dans chaque situation. Alors abandonnons les petits rivaux. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous trouverez le repos pour vos âmes. En Jésus, il y a une solution pour le stress chronique, pour l'angoisse chronique, pour les nuits où tu n'arrives plus à réfléchir, où tu ne dors pas. En Jésus, il y a une solution. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Tu es préoccupé, il y a des choses. Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Tu vois, là, il y a des choses en moi, je ne maîtrise pas. Mon monde intérieur tourne et tourne et tourne et tourne. Jésus, tu es le maître. Il faut apprendre à proclamer Christ maître de votre monde intérieur. Sinon, vous êtes ballotté, il dira un jour à gauche, un jour à droite, et machin, et ceci, et cela. Et puis la moindre information, c'est compliqué. Et puis j'ai mal au, j'ai un bobo et ça ne va pas. Et j'ai ceci et comment je fais? Et puis on ne vit pas par la foi, on vit par toutes sortes de choses qui nous motivent au-dedans de nous. Quel maître est-ce que je suis? Nous vivons avec Christ, nous vivons dans une dépendance. On ne vit pas dans le contrôle. Dieu ne contrôle pas. On dépend de lui. On choisit de dépendre de lui. On choisit de ne pas dépendre des choses extérieures, mais dire, Seigneur, ces choses extérieures, je les vis vraiment. Mais je choisis aujourd'hui de dépendre de toi profondément. Aide-moi. Vis en moi. Vis en moi. C'est dur, hein? Nous avançons par sa grâce, on l'a dit. Pas en perfectionniste. Nous servons dans l'amour et pas dans la crainte. Moi, je ne vais jamais vous dire « Ah, tu n'étais pas là à telle réunion. » Je vais dire « Pourquoi tu n'es pas venu? Tu aurais pu être béni. » Mais je ne vais pas dire « Tu n'étais pas là. » Je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. C'est ton choix. Tu peux être béni hein, le dimanche matin à 9h30 si tu savais toutes les paroles qu'on reçoit. C'est ton choix. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de tyran. C'est notre dépendance. Suis-je dépendant? Moi, j'aime bien raconter ce que tu nous disais. Papa et mon père y allaient à la réunion de prière. « Les enfants, est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu ?» Et nous, on dit tout ça. Ah. Les enfants, est-ce que quelqu'un a besoin de Dieu? Et puis, ils partaient. Et une fois de temps en temps, il y avait un ou deux enfants dans la voiture. Mais il ne nous a jamais imposé. Jusqu'au moment où on a compris que la relation avec Dieu était importante. Il disait, moi, je vais aller prier. J'ai besoin de mon Dieu. Ça change. Et bien, avec Jésus, c'est la même chose. Il dit, hey, je suis là. Tu peux venir. À tout moment. Tout est accessible, possible. Je peux t'aider. Mais quel maître désires-tu suivre à l'instant T? Tu suis qui aujourd'hui? Tes peurs, tes craintes, ton besoin de contrôle, ton laxisme qui fait que tu embêtes tout le monde, parce qu'il n'y a rien qui avance? Ou est-ce que réellement tu dis, Jésus, tu vois, j'ai mes incapacités, Ici, je dois progresser, ceci, cela, aide-moi. Je veux être semblable à toi. Amen. Amen. Alors, application qu'on peut avoir dans nos vies, et quelques petits exemples. Alors avant ça, j'aimerais qu'on lise, je ne sais pas si je les ai donnés, mais j'ai donné le verset 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. A fait briller la lumière dans nos cœurs. La voie que tu dois suivre est inscrite dans ton cœur par Christ lui-même, pas par le pasteur, pas par la dénomination d'église, pas par la prophétie que tu as eue il y a 10 ans. Tout ça, c'est utile pour qu'on grandisse, mais dans ta relation avec Dieu, Jésus-Christ est la lumière. Et on ne peut pas construire sur un autre fondement. Je ne construis pas ma vie sur une prophétie, je ne construis pas ma vie sur une formation biblique, je ne construis pas ma vie sur une église, je ne construis pas ma vie sur mon état d'âme, je ne construis pas ma vie sur ma morale chrétienne. Je construis ma vie sur Christ profondément ancré dans ma relation avec lui. Et ça, ça chasse les ténèbres du monde qui m'entoure, ça chasse mes préoccupations, ça m'aide à vivre léger toutes les situations les plus pénibles que j'ai à endurer. Mais je vous le dis, marcher entre deux eaux, c'est pire. Être un chrétien, moi je me souviens quand j'étais jeune, moi j'ai toujours dit à Chanel, tu vois, toi, tu as eu la belle vie. Tu n'as pas connu Christ. Et je parle aux enfants de chrétiens. Il y a des enfants de chrétiens ici encore dans la salle? Il y a des enfants de chrétiens? Ouais, on est tous des enfants de chrétiens. Je dis, c'est une horreur de vivre en tant qu'enfant de chrétien dans ce monde. Parce que tu connais les valeurs, parce que tu sais ce que Dieu n'aime pas. Mais parfois, tu as un manque de conviction. Tu es constamment attiré à gauche, à droite, et il y a une tension dans ton être qui est insupportable. Moi, j'ai vécu cette tension, elle était horrible. J'avais envie de suivre Dieu, mais c'était dur face à la réalité de cette vie. Et c'est pour ça que c'est mieux soit d'être froid, soit d'être bouillant. Parce qu'entre les deux, c'est horrible. Et la réalité, c'est que parfois, on est des chrétiens, on vit entre les deux. On n'arrive plus à être radical sur certains sujets parce qu'on est envahi par toutes sortes de pensées. Alors, soit on arrête tout. On dit, je vais vivre ma vie. Ah, tu vas prendre des claques. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas... C'est pour ça que, les chrétiens de l'époque, ils disaient, lui, mettez-le dehors. Il ne veut pas suivre Dieu, ça fait 10 fois qu'on lui dit. Il suffit de lire dans l'acte des apôtres, retourne à ton vomi. T'as pas compris la grâce de Dieu, retourne à ton vomi. Peut-être que là, tu rentreras compte qui est Christ réellement pour toi. Et à ce moment-là, tu seras vraiment une personne transformée. Eh bien, il faut être bouillant. On a besoin d'être bouillant, d'être rempli de Dieu. Qu'il n'y ait plus de petits maîtres à gauche, à droite, qui dirigent nos pensées, qui dirigent notre façon de fonctionner, qui dirige notre organisation. Il faut être vraiment ces personnes qui sachent s'adapter. Si tu dois être carré dans certaines situations, sois carré jusqu'au bout des angles. Mais si tu dois être simple, simple, la simplicité, accueillant, t'adapter, fais-le aussi. Tu dois être capable de tout faire. Tu ne peux pas dire « je suis comme ça ». Je suis enfant de Dieu, c'est ça que tu dois dire. Et à chaque fois qu'un enfant de Dieu entre dans une situation, il a l'attitude que Christ aurait eue. Ça vous va? Et moi, c'est dur pour moi. Et je sais que si c'est dur pour moi, c'est aussi dur pour toi. Alors on dit, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je veux être la personne que tu veux que je sois dans chaque situation de ma vie, dans mes études, face à mes amis, dans mon couple, dans ma famille. J'ai besoin de toi. On ne veut pas être dans la gestion parfaite sans prière, on ne veut pas être dans l'activisme, mais sans paix, on ne veut pas être dans la réussite humaine, mais sans la présence de Dieu. Tu peux réussir toutes choses humainement, avoir tout ce que tu désirais, pourtant manquer de la présence de Dieu. Et là, il y aura quand même un vide. Tu auras tout acquis, tout conquis, mais il n'y aura pas la présence de Dieu. Jésus, j'ai besoin de connaître ta présence. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Arrête de te glorifier pour tes compétences. Arrête de te glorifier pour les choses que tu as réussies. Arrête de te glorifier pour toutes sortes de choses. Jésus, je me glorifie dans ton nom parce que tu m'as donné cette capacité. J'ai pu l'utiliser, c'est grâce à toi. Ce n'est pas parce que j'ai fait 10 ans d'études. Ce n'est pas parce que, oui, on a des courages. Oui, on doit affronter la vie. Mais parce que nous, on est enfants de Dieu, on se glorifie en Jésus. Amen.